Coconut Podcast. Saison 5. Présenté par le groupe Quartier. Avec votre animateur, Alain Jo. Mesdames, messieurs, bonjour, Kwe. Écoutez, en ce mois de l'histoire des Noirs, Coconut Podcast réitère encore une fois avec un invité de marque, messieurs, dames. Alors là, je ne peux pas vous dire si vous ne le connaissiez pas, car il est connu d'à travers la province et je vous dirais de plus en plus à travers la francophonie, messieurs, dames. Nous avons l'immense plaisir de recevoir en quelque sorte pour Coconut Podcast un grand frère. Il s'agit d'un modèle qui trace la route pour tous les gens issus de la diversité et surtout des communautés noires, messieurs, dames. C'est avec une grande joie que nous recevons le fondateur, oui, et directeur général d'un des médias, mais je vous dirais de référence au Québec aujourd'hui en 2023 pour l'ensemble de la communauté journalistique. Messieurs, dames, sans ne plus tarder, accueillons à Coconut Podcast, je dis bien, alors là, messieurs, dames, oui, nous avons avec nous au podcast numéro 1 de la diversité. Hein, je fais aller le suspense. Hein. Eh bien oui, accueillons Cyril Ekwala.
Je ris depuis tout à l'heure. C'est impressionnant.
My God, c'est toi qui me dis ça,
non,
Cyril.
Non, c'est impressionnant. Je me dis, est-ce que je vais être à la hauteur de cette introduction? Ah oui, non. Il parle de qui? Non, je suis vraiment très content d'être là.
Ouais, franchement.
Je connais, évidemment, je connais, on ne va pas faire semblant. Je connais Coconut Podcast, que je suis. Mais cette intro, c'est magique.
Ben, c'est peut-être comme ça qu'on met nos invités dans notre poche.
Ouais.
Écoute, Cyril, pour le travail que tu as fait, on va apprendre à te connaître, on va faire part de tes faits d'armes, faits saillants, du moins que Coconut ont pu relever. Cette introduction, vraiment, elle est très peu. Toi-même, tu prends le temps de faire ressortir les pépites d'or que nous avons au sein des communautés ethnoculturelles, mais également des communautés noires. Et pour moi, le fait de te présenter comme ça, c'est de te faire découvrir à ta juste valeur à l'ensemble de la francophonie que Coconut Podcast est en mesure de toucher.
Mais merci pour tes mots. C'est sûr que je le fais, mais je dis toujours, c'est ensemble. C'est la même chose que tu fais. Je n'ai pas pour habitude de vouloir me sortir du lot. J'ai cette phrase que j'utilise souvent. Je dis que nous n'avons pas encore, hein, en tant que communauté noire au Québec particulièrement, nous n'avons pas encore le luxe. Alors, je vais faire attention à ce que je veux dire. Pas le luxe de jouer les uns contre les autres. On joue ensemble, on avance ensemble. Donc, effectivement, j'apporte ma part, mes années d'expérience. Puis, j'ai fait exprès, après ton invitation, de la laisser pousser pour dire qu'effectivement, peut-être que ça fait un moment que, comme on dit, je suis dans la game. Donc, voilà, mais c'est vraiment collectivement qu'on avance. C'est pour ça que quand moi je vais regarder par exemple Coconut Podcast, je vais regarder, ah tiens, il a reçu tel, ah tiens, c'est très intéressant ce que telle personne dit. Je découvre parfois des choses. De gens que j'ai déjà reçus, hein, mais je découvre d'autres aspects chez eux, tout à fait. Donc c'est pour ça que je dis c'est ensemble, mais en même temps, merci pour tes mots. Je ne vais pas jouer le faux modeste, c'est sûr. Ça fait plaisir.
La question qu'on pose à tous nos invités, à Radio-Canada, on ne peut pas poser cette question, mais on a cette liberté d'être sur un podcast, voilà, Coconut Podcast. Mm. Comment ça va, Cyril Ekwala?
Ça va bien. Ça va bien. Mm-hmm. Est-ce que ça pourrait aller mieux? Sûrement. Mais ça va bien. Contrairement, quand j'essaye de me comparer à la... Je veux dire, peut-être à la majorité. Mm-hmm. Mm-hmm. D'un certain groupe de personnes, je dirais que ça va bien. Ça va bien physiquement, du moins en apparence. Mm-hmm. Ça va bien psychologiquement. Donc, ouais, ça va. Ça va bien. Ouais.
On aime ça de savoir que l'un des grands Manitou des médias de la diversité se porte bien. Mm. Ça, ça annonce encore plus de beaux projets à venir dans les temps
très
immédiats, si on peut le dire ainsi. Ouais. Cyril Ekwala, on va apprendre à te connaître pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Alors, d'après les recherches de Coconut Podcast, tu viens du continent mère, Motherland, Africa. Tu viens de l'Afrique, plus précisément, tu es Camerounais. On sait qu'au Cameroun, c'est un peu... une réalité qui s'apparente à celle du Canada au niveau linguistique. On a des francophones, mais on a des anglophones.
Tout à fait.
Are you bilingual?
Not really.
Not really?
No, not really.
Okay. Est-ce que tu peux nous expliquer? Parce que toi, tu viens de
Douala.
Douala, pas Yaoundé.
Non, Douala. Mm-hmm. Douala, la côte. Mm-hmm. Yaoundé, c'est la capitale qui est un peu plus à l'intérieur du territoire. Mais avant... De dire que oui, effectivement, le Cameroun se rapproche linguistiquement du Canada, c'est-à-dire qu'avec le bilinguisme français-anglais, à l'intérieur, à la base, c'est qu'il y a plusieurs langues. Okay. Le français, l'anglais, bah, c'est la colonisation. Okay. Voilà. Les Français sont passés par là, les Anglais sont passés par là. Ils nous ont laissé ça en héritage, mais il y a plusieurs langues, voire même beaucoup. Le Cameroun a la particularité d'être le pays africain où on retrouve dans un espace d'à peu près 475 000 carrés. Là, je ne connais pas bien les pieds carrés malgré mes années d'existence au Canada. Mais grosso modo, on parle à peu près, je vais m'arrêter à 200, entre 200 et 230 tribus. Donc, langues plus ou moins différentes. OK ? Maintenant, il y a le français et l'anglais. Le français, contrairement au Canada, là-bas, le français est majoritaire. Ah. Oui, à peu près 80, mm-hmm. voire même plus.
Il y avait des échauffourées entre ces populations là, assez récemment.
Ah, oui.
L'indépendance souhaitée par les anglophones du Cameroun.
Oui, alors des anglophones. Des anglophones. Okay. Disons qu'il y a... c'est un peu comme si quelqu'un disait « Oui, mais il y a les Québécois qui veulent l'indépendance. » Il y a des Québécois. Donc, c'est la même chose. Il y a des anglophones, effectivement, qui souhaitent être indépendants. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait très longtemps parce que c'était une partie qui avait été annexée. Alors, il y a eu une bataille. Je ne vais pas remonter loin dans l'histoire. Mais entre le Nigeria, qui est frontalier au Cameroun, et voilà. Donc, il y a eu ça. Et puis, là, depuis un moment, 6-7 ans à peu près, c'est remonté à la surface. Donc, il y a justement des séparatistes, comme on les appelle, qui sont montés. Donc, ça les oppose à l'armée. Dit vite fait comme ça, c'est quand même dramatique parce qu'il y a des morts, il y a des populations déplacées. Et c'est dommage pour ce pays-là. Ouais. C'est dommage pour ce pays que nous avons, comme on dit, tatoué en nous. C'est
ça, tatoué, un peu, tatoué,
ouais, c'est
sur
un peu dommage.
Cœur.
Tatoué sur le cœur, oui, tout à fait.
Par la suite, Cyril, on sent que toi, tu es un friand de nouvelles cultures, de découvertes. Est-ce que c'est papa et maman qui vont te dire, bon, fiston, là, tu vas étudier en Europe, tu vas à Paris, à l'université, parce que tu vas quand même étudier à Paris Créteil au niveau, tu vas faire Sciences Po, Sciences Politiques. Est-ce que c'est tes parents ou c'est toi, en regardant des documentaires, en regardant les guignols, tu t'es dit, ouais, moi j'aimerais aller en France, j'aimerais vivre à Paris et même y étudier. Ouais, comment tu as pris cette décision? Qu'est-ce qui t'a amené sur Paname?
Non, je suis allé sur Paname parce que, comme j'ai dit, bon...
Une dulcinée?
Non, pas, même pas. Non, c'est pas à ce moment-là. Non, la colonisation fait que, voilà, on suit un parcours école formation française. C'est leur enseignement, c'est un peu tout ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait là-bas. Et les conditions, en fait, dans le pays faisaient qu'à un certain moment, si on avait envie vraiment d'emmener les études un peu plus loin, on quittait le Cameroun pour aller ailleurs parce qu'il n'y avait pas assez d'écoles, comme on dit. Et donc, c'est ce qui m'a amené en France pour continuer mes études, ce qui est le lot de beaucoup de Camerounais, pour dire la vérité. Hein. Alors, les anglophones, ils vont aller peut-être du côté de Londres ou alors des États-Unis, comme on voit de plus en plus. Les Camerounais, c'était beaucoup la France, jusqu'à une certaine époque.
Quand tu annonces à tes parents, à la famille,
Que je veux aller,
où que tu
non,
pars,
c'est même pas moi qui leur annonce que c'est eux qui me font partir. En fait, c'est ça, c'est parce qu'à un moment donné, on bloque là, donc les enfants, les parents, c'est on va faire partir nos enfants en France, en Belgique, voilà, c'est ces pays-là. Donc c'est comme ça que j'y vais. Alors le journalisme, c'est pas là-bas que je le découvre, c'est au Cameroun que je le découvre. Et la personne, en fait, qui moi
Ok,
me.
intéressant.
Non, la personne qui me fait aimer le journalisme est une personne qui vit au Canada et qui n'est autre que, beaucoup de Québécois ne le savent pas, mais c'est le conjoint de la sénatrice Amina Gerba. Ouais. C'est lui qui, avant que son épouse et lui décident de venir au Cameroun, c'est quelqu'un qui travaillait à la radio, il était journaliste au Cameroun, et c'est sa voix en fait. Il n'y avait pas de télévision. Lui, c'était un homme de radio.
Tu t'es reconnu dans sa voix parce qu'on sent que tu as une basse dans ta voix,
C'est.
tu as cette voix radiophonique là. Ouais, tu t'es
Non,
reconnu.
c'était juste de l'écouter et de l'écouter parler du monde, de l'écouter. C'est juste ça qui m'a donné le goût. C'est Monsieur Gerba Malam. Voilà, c'est ça. Et c'est lui qui m'a fait aimer ce métier. J'ai dit, voilà ce que j'ai envie de faire. Parler à la radio. De quoi, j'en sais rien, mais je veux parler à la radio. Donc voilà comment j'ai aimé. Ce qui fait que lorsque je pars, je vais en France, je passe par des études de droit, mais qui étaient alliées à des études de sciences politiques. Et comme on dit, les sciences politiques mènent à tout. Moi, j'ai choisi le journalisme parce que, voilà, on aime ça, parler au monde. J'aimais ça, cette curiosité sur le monde. On va essayer de faire une histoire courte, mais ça a été ça.
Un de tes plus beaux souvenirs d'Europe et un de tes moins bons souvenirs d'Europe, très rapidement.
Très rapidement, oh là là. Alors, un de mes plus beaux souvenirs, un de mes plus. Professionnellement, on parle là.
Ouais, voilà, ou je sais pas, socialement, est-ce que.
Je vais le dire, peut-être professionnellement, c'est le jour où j'ai été invité pour la première fois en tant que journaliste à Radio France Internationale.
Quand même, c'est pas peu dire, c'est pas rien.
Non, c'était vraiment pas rien. Et c'était pour le journal radio, comme on dit. Je pense que ce jour-là, ça a été le plus beau.
Est-ce que tu as appelé papa pour lui dire, papa, papa, on m'a appelé? Ou
Non,
ton tonton, ou
il le
ton.
savait, il le savait. Oui, ça a été mon. C'est ce qui me vient comme ça. Voilà, c'est ça. Et puis. Mauvais souvenir,
Peut-être plus aigre.
c'est le stage que j'ai voulu faire à une radio. Dans une radio, alors là-bas, ça s'appelle des radios privées, qui s'appelle Europe 1. Mais c'est pas, là-bas, les radios privées, c'est pas comme ici. Tu vas m'inviter à une autre
Nous
émission,
sommes
puis
pour.
on
On
parlera
va
de la classe. Ouais,
décortiquer
on va
ça. C'est
décortiquer ça,
intéressant.
mais ce n'est pas le même concept. Ici, nous, radio privée, c'est la radio qui met de la musique ou qui. Voilà, c'est ça. Là-bas, ce n'est pas la même chose, mais ce sont les radios les plus écoutées. C'était pour un stage de journalisme dans une salle de rédaction où j'ai fait un mois, mais un mois sans jamais avoir pu parler dans un micro. Jamais avoir pu toucher une. Et c'était ça le stage. Je pense que professionnellement, c'est juste ça. Ouais, c'est le stage juste que je vais mettre en avant.
Superbe. Et là, tu termines ta licence en sciences politiques, c'est comme ça que vous dites, hein? Ouais, c'est ça. Et tu nous corriges, hein? Tu vas arriver sur la terre de René Lévesque, hein, entre autres, des Algonquins, des Innus, des Inuits, hein, n'est-ce pas ? En 2004, c'est bien ça ?
C'est ça.
Qu'est-ce qui te fait choisir ? Là, j'ai envie de te reposer la question. Est-ce que c'est une quelqu'une ? Voilà, tu rencontres quelqu'un qui fait vibrer le cœur et qui te dit, bon, allez, prochain Air Canada, tu débarques et achète un bon manteau et une bonne tuque.
Parce qu'il fait froid.
C'est pas comme à Paris. Ouais. Qu'est-ce qui va te faire choisir le Québec ou c'est ce couple que tu vas rencontrer, qui vont te vendre le Canada et
toi, Non. C'est juste, tu l'as dit tantôt, tu parlais de Dulciné. Oui, c'est cette Dulciné-là qui est ma conjointe aujourd'hui. Okay. C'est qu'on se rencontre... on se rencontre... en fait, on s'est rencontrés en France et puis elle avait le projet de venir au Canada. Donc, elle est venue au Canada.
Qui prend femme, prend pays.
Exact. Elle est venue au Canada et moi, j'ai suivi.
Ok, cool.
J'ai suivi. Je suis venu pendant un été et où justement, je venais avec des accréditations pour couvrir des festivals, que ce soit jazz et autres. Et là, ce pays, cette ville, je dis, mais c'est pas possible. C'est pas Montréal, ça. C'est pas... Non, ça a été ça.
Est-ce que tu savais que ta venue au Québec, au Canada, allait t'apporter autant d'opportunités le plan professionnel, par exemple.
Je pense que je l'ai su dès le premier jour.
Anecdote, qu'est-ce qui t'a fait remarquer ce fait ? On t'écoute.
Juste en marchant dans la rue, juste en humant l'air, juste en regardant les gens, juste en parlant aux gens.
T'as senti que leur réaction, c'était bien tombé.
Je me suis senti comme un poisson dans l'eau. J'ai dit, c'est fou, il y a quelque chose ici.
Est-ce que tu peux faire cette distinction entre l'Europe et ici ? Ce n'est pas nécessairement le même sourire dans la rue, entre les badauds qui se rencontrent ?
Non, c'est pas la même chose. Moi, ça m'amuse quand on dit qu'ici, les gens vivent... je parle de Montréal. Ça m'amuse. Quand les gens disent qu'on vit en ghetto, je dis, je ne suis pas sûr.
Parce qu'il y a d'autres endroits...
Parce qu'il y a d'autres endroits, et je pense à l'Europe notamment, où... voilà, quand on parle de mixité, ça n'a rien à voir avec ce que nous vivons ici. Montréal est une ville cosmopolite. Montréal est une ville multiculturelle. Montréal est une ville monde. Et quand des gens, parfois, je les entends dire « Paris, qui est la plus grande ville », ça, c'est des images d'Épinal, ça. C'est pas... les gens ne vivent pas. Évidemment, depuis que je suis ici, je vois...
Il y a quelques paris, hein.
Je vois des choses. Peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas être d'accord avec moi. Ça, c'est leur point de vue. Mais il est évident que je n'aurais jamais fait ce que je fais aujourd'hui si j'étais resté là-bas.
Excellent. Et lorsque tu arrives ici, vite fait, tu as déjà ce bagage journalistique, tu es ferré, tu connais la chose... politique quand même, tu as étudié là-dedans, assurément tu en parles avec les tontons, les tatis, constamment. Vous parlez beaucoup de politique là, en Afrique, là. Ça je trouve ça intéressant quand même, là. À l'intérieur de la famille souvent. Le fait d'accéder à ces grandes chaînes, Radio-Canada entre autres, tu vas y travailler quand même, tu me corriges là, mais plusieurs années, là, en tant que recherchiste, animateur, co-animateur, tu vas un peu tourner dans toute la patente, la boîte, pour quelqu'un qui vient d'arriver au Québec. Oui, tu as quand même fait cette spécialisation au HEC en gestion, mais est-ce que c'est ta personne, est-ce que c'est ta discipline? Qu'est-ce qui a fait en sorte que direct arrivé en Amérique, tu vas accéder à Radio-Canada? Est-ce que c'est ton passage à RFI qui les a carrément...
pas RFI, c'est ça. Tu as tellement lu... Je redoute, il y a des choses qui sortent, qui me surprennent. Radio-Canada vient après. Okay. Mais la maison média qui m'accueille, c'est Radio Centre-Ville.
Ouais, mais c'est ça, tu vas être à la programmation.
C'est Radio Centre-Ville. Et... aujourd'hui, fait Radio Centre-Ville où j'ai rencontré plein de monde. Je me rappelle encore Huile, il avait encore des dreads à l'époque. Ronnie D, je l'ai connu après, mais ouais. Katie Antoine, ouais, okay, voilà, okay, c'est des okay. gens, voilà, ouais, c'est là, c'est Radio Centre-Ville. Mm-hmm. Et qui m'a permis de voir ce Montréal multiculturel dont on parlait, parce que Radio Centre-Ville, c'est la radio. On est sur Saint-Laurent, mais à l'intérieur de la radio, mais c'est une micro-société. On y trouve toutes les cultures, et là, j'apprends à connaître ces gens-là. Et c'est là que je fais tout, grosso modo, c'est là que j'apprends. C'est là que je commence à... Ok, il y a un tel, voici comment ça fonctionne. C'est à l'intérieur de Radio Centre-Ville. Donc, quand j'arrive à Radio-Canada, j'arrive...
Donc, Radio après, Centre-Ville, c'est encore, c'était une bonne école.
C'est, et pour, je ne sais pas comment ça tourne aujourd'hui, mais pour moi, là, on parle d'années... J'arrive en 2004, d'accord. je vais donc quasiment jusqu'en 2010. Pour moi, c'était la meilleure école.
Okay, super.
Après, aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça donne, ouais, mais c'est la meilleure école. Radio-Canada, je rentre, mais je suis à Radio-Canada. Oui, je fais de la recherche. À l'époque, je rentre directement dans l'émission de Michel Desautels. C'était ce qui est aujourd'hui le 15-18, pour ceux qui écoutent un peu la radio. C'était cette émission-là, Affaires publiques. Et bien, je plonge dans quelque chose que j'adore, les affaires publiques. Puis, tu dois le savoir, on ne peut pas faire ce métier si... Moi, je mets toujours deux préalables. Si vous n'êtes pas quelqu'un de curieux dans la vie, ça, c'est la première des choses. Être curieux, mais par curieux, c'est ouvert d'esprit. La deuxième des choses, c'est il faut aimer les gens. Si vous n'aimez pas les gens, vous ne pouvez pas faire ce métier. C'est vraiment ce que je mets d'abord en avant. La curiosité, ouverture d'esprit et aimer les gens. Et ça, moi, c'est peut-être ce qui m'a permis de naviguer un peu là-dedans. Donc, j'arrive à Radio-Canada pour rapidement, oui, je fais la recherche. Après, on m'envoie à la salle des nouvelles où là, je fais du reportage terrain. Mais c'était plus du reportage pour le journal, hein, pas du reportage de magazine. C'est-à-dire que pour ceux qui nous regardent, qui sait, on va peut-être inspirer des gens. Le reportage journal, c'est du 2-3 minutes que vous devez faire. Alors que magazine, vous pouvez aller jusqu'à 6-8 minutes de reportage. En radio, moi, Radio-Canada, ça a toujours été la radio. Je n'ai jamais fait télévision. Non, je n'ai jamais fait télévision. Donc après la première chaîne, quand je quitte ici première, voilà, je vais à Radio-Canada International.
Okay.
Voilà. Où là, effectivement, bon, on est beaucoup plus dans des reportages longs. Et c'est de là, grosso modo, même que va naître la suite, en fait.
Ouais, ben exactement. Parce que très rapidement, et c'est à ce moment que, en tout cas, toute la diversité va vraiment prendre conscience de ta présence et du travail que tu fais, qui deviendra vite incontournable. En 2015, il y a une idée qui te dit de partir une émission qui deviendra un média par la suite, Néo-Québec. Moi, la première fois que j'ai vu le nom, je me suis dit, mais qui a osé? Parce qu'il y a nouveau dans Néo, mais il y a aussi le jeu de mots Néo-Québec.
Exact.
Ouais. Mm-hmm. Puis, je me suis senti interpellé. Parce que tu as bien pensé ton truc. Parce que c'est la première fois qu'on voyait quelqu'un s'affirmer de la sorte en disant, on est nés ici, nous autres, même si toi, tu es arrivé à un certain moment, mais... Tu as épousé une cause en comprenant bien la situation, en contre les Kétiens, Antoine, ses enfants ou autres. Et là, tu t'es dit, non, moi, je dois léguer un truc pour les plus jeunes. Et avec Néo-Québec, tu as visé drette dans le mille. Peux-tu nous relater très rapidement, une minute, pourquoi tu es arrivé avec ce concept? Et moi, en 2017-2018, pour moi, c'est l'apogée de Néo-Québec, les élections provinciales. Tu vas faire un portrait, c'était la première fois qu'on voyait ça au Québec, où ce que tu relatais, même pas que les candidates et candidats des grands partis, mais c'est un travail de moine, quoi. Tu avais pu répertorier, même avant que les grands médias n'en parlent, tous les candidats et toutes les candidates issus de la diversité, mais surtout des communautés noires.
Dont toi.
Ben ouais, c'est ça, en 2018, j'étais candidat avec le Parti Vert. Et là, j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est qui a osé mettre notre photo, puis il nous donne un peu d'exposure, parce que tu étais le premier là, qui nous faisait ressortir. Très peu avaient parlé de nous.
J'étais le premier.
Ouais, voilà. Donc...
Néo-Québec.
Ouais, c'est intéressant. Hein.
Non, mais Néo-Québec, tu l'as dit, je suis au Canada, je suis arrivé au Canada en 2004. Mm-hmm. Donc l'année prochaine, ça va me faire 20 ans au Canada. Et il y a des gens, qui continuent à m'appeler nouvel arrivant. Ben oui, je suis un nouveau arrivant. Mm-hmm. OK? C'est comme ça qu'on appelle ceux qui sont...
Même 20 ans après.
20 ans après, on est nouveau arrivant. Donc, c'est ça, à un moment donné, où je dis, OK, ben, si vous continuez à m'appeler nouveau arrivant, mais je parle de termes qui existent même dans les textes administratifs. Nouvel arrivant, programme pour nouveau arrivant, ainsi de suite. Puis j'ai dit, mais dans ce cas, vous continuez à ne pas me considérer comme Québécois. Donc, je suis un nouveau Québécois, puisque je suis arrivé. Donc, c'est là où je pars avec Néo. Mais en même temps, je me dis, mais il y a des gens qui sont nés ici. La seule différence, c'est qu'ils ne sont juste pas blancs, mais ils sont nés ici. Donc, nés au Québec. Je voudrais parler d'eux. Je ne voudrais pas, mais je vais d'abord faire un break pour parler de ceux qui veulent arriver au Québec. Parlons de ceux qui sont ici, que je ne vois pas. Je parle de les mots diversité, ça rentre à peine là dans le langage
populaire,
dont on ne parle pas assez. Et voilà tout simplement comment ça part. Puis je dis, bah tiens, Néo-Québec. Mais alors, ce n'est pas une idée de génie parce que mes lectures m'ont amené après à découvrir que il y a un homme politique qui a utilisé cette expression il y a très longtemps et comme par hasard, c'était René Lévesque. Chef du Parti québécois,
bon, écoute,
qui s'adressant aux communautés grecques, avait dit les néo-québécois. Puis j'ai dit, OK. Ah,
mais c'est, ouais, on l'a retrouvé, ça, dans le...
Voilà.
Ouais.
Donc, c'est pas vraiment, je rassure tout le monde, c'est pas vraiment l'idée de... Quoique, hein, ça fait plaisir que tu dises que ça vient de moi.
Voilà. C'est, franchement...
et puis, voilà, quoi. Donc c'est vraiment ça.
Il a été journaliste. Hein.
Oui, tout à fait. Ouais. Et donc, c'est vraiment ça qui m'amène après. L'idée, c'est de dire, je veux parler de ces gens qui sont ici, qui font partie de ce pays.
Tu te rappelles de ta première entrevue avec Néo Québec, à l'émission Néo Québec.
Oh, ça c'est cool, ça.
On te laisse
si
y
tu
réfléchir.
Poses, si tu poses la question, c'est que tu sais sûrement. Mais...
Non, oulala, je sais pas.
Ah, c'est une colle.
Ah, okay.
C'est une colle. Je me demande si c'est pas Dorothy Alexandre.
Bah, j'allais dire qu'Étienne-Antoine un peu dans le même sillage.
Ouais, je pense que c'était, si Dorothy, je me trompe pas, je pense que c'était Dorothy Alexandre.
Okay, bah.
Non, mais donc voilà un peu comment j'y vais. Puis je dis, mais on veut qu'il soit inséré, on veut que ces néo-québécoises et néo-québécoises, donc, que ces personnes soient insérées dans la société. C'est ça un peu l'objectif. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a la politique, mais mettons-les en avant parce qu'on ne les voit pas.
Cyril, on va devoir te réinviter, ça c'est sûr. Pour terminer, tu as travaillé à Radio-Can, tu as parti du média et tu vois qu'il y a de plus en plus de petits qui te suivent, entre autres Coconut Podcast, sur la voie que tu avais tracée. Quelles sont les perspectives d'avenir pour les Québécois, ben pour les néo-Québécois dans l'industrie médiatique? On aimerait t'entendre avec ta lecture de grand frère, avec toute l'expérience que tu as.
Oh, j'y crois beaucoup. J'y crois beaucoup. Et ça se voit. Ça se voit. Je sais qu'il y a des gens pour lesquels ça ne va pas assez vite. Mais je peux garantir aux gens, il suffit de regarder avec lucidité. Prenons juste 2010 à aujourd'hui 2022. Ce que je vois dans ce que j'appelle le paysage médiatique québécois,
ouais,
ça change. Ça ne va peut-être pas assez vite, mais ça change énormément. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'être dans ce qu'on appelle les gros médias, parce qu'il y a les YouTube de ce monde, il y a des podcasts qui se font. Vous avez la possibilité de faire ce métier, mais à une condition. Et là, je sais, ça va encore faire l'espèce de vieux ringard, mais à une condition. Soyez sérieux et respectez ce métier. Prenez les bases de ce métier. Ce n'est pas parce qu'on est seul dans sa chambre avec son YouTube ou son téléphone. C'est un métier qui a des règles. Il faut le respecter. Et c'est comme ça, justement, peut-être que le reste de la majorité, de la population majoritaire, va respecter et voir ce qu'on fait. C'est ce que je dirais.
Cyril Ekwala,
oui, mon cher.
Les fanatiques qui te suivent. D'à travers la francophonie, non mais au Québec, on a les stats, nous autres, là, de Facebook.
Oui,
là.
Bon, c'est peut-être le mot fan, je ne suis pas un artiste.
À la caméra, tu t'adresses à la caméra et si tu avais quelques bons mots à leur dire, surtout ceux qui aimeraient se lancer dans cette aventure des médias traditionnels ou moins, ils t'écoutent.
Je vais dire ce que je viens de te dire, c'est que pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Je vais me répéter, mais c'est parce que c'est ça. Il faut être curieux. Il faut aimer les gens pour faire ce métier. Et surtout, il faut le respecter parce qu'on s'adresse à des gens, mais aussi à des gens qu'on invite et il faut les respecter. Grosso modo, c'est ce que je vais vous dire. Puis, le Québec a besoin de vous. Donc, venez.
Cyril et Kuala, écoute, toute une entrevue. Écoute. Je pense qu'on va en faire une quasiment à chaque saison avec toi. On n'a pas le choix parce qu'on apprend énormément.
Les gens vont se lasser. Surtout, non, il y a plein de gens.
Mais on va faire d'autres formules. On a d'autres plateaux là sur le studio qu'on va les utiliser. Écoute, Coconut Podcast, on a eu cette chance de nous promener à travers la nation québécoise.
Félicitations pour ton prix. Le prix du Québec contre le racisme, c'était la première édition et j'ai été très heureux de voir quand j'ai eu les résultats qu'au niveau des personnes, c'est Coconut Podcast qui avait eu ce prix-là. Je profite, je le dis devant ceux qui te regardent, je dis félicitations. Merci. C'est un prix qui a été mis justement, qui fait partie de cette grande stratégie de lutte contre le racisme qui a été mise par le gouvernement actuel, dont je ne partage pas toutes les idées, ça c'est un détail, mais quand c'est bon, il faut le dire et ça en fait partie. Et tu as eu ce prix, je te dis félicitations.
Merci. Et écoute, en nous promenant à travers le Québec, on a été à la rencontre de nos frères et sœurs des Premières Nations. Alors, on s'est rendu voir nos frères et sœurs sur la côte nord. En langue inoue, ils nous disent « Chinash kumitin ». Par là, tu veux essayer?
Non, s'il te plaît.
Par la suite,
deux fois, tu vas me répéter
ça plus
tard. On s'est
rendu voir nos frères et sœurs dans la région de Québec, le Redville. On a rencontré nos frères et sœurs Huron-Wendat en langue Wendat. Ils nous disent « Téawek ». Par la suite, on a pris nos chclacs, nous autres, à Coconut Podcast. On s'est rendu dans le centre du Québec, à Odanak, pas loin de Drummondville, Victoriaville. Et là, en langue Abenaki, nos frères et sœurs nous disent « Oh, Léone ». Coconut Podcast, vous savez, on aime ça se promener. On a été en Abitibi. Et là, en langue algonquine, on vous dit « Miigwetch ». Et pour terminer, on est dans la région de Montréal. Et nos frères et sœurs des Premières Nations nous disent « Niawen ». Et moi, je suis d'origine haïtienne. Je sais que tu comprends le créole après 20 ans sur Montréal. Merci, merci en pile, Cyril, ou son modèle pour Communauté 1. Et je te jure, si Coconut Podcast, on est là, c'est entre autres dû à toi.
Je te dis merci en pile, mais je termine avec merci dans ma langue natale qui est le Douala. Et je te dis « Nassoum ».
Nassoum.
Nassoum.
Nassoum, merci.
Merci.
Messieurs, dames, oui, nous étions avec ce grand Manitou des médias de la diversité. Franchement, Coconut Podcast, on apprend énormément de lui. Je vous invite à le suivre sur toutes les pages Internet, là, un peu. Né au Québec, vous allez faire des découvertes incroyables. Si Coconut existe, c'est dû à Né au Québec. Sur ce, messieurs, dames, comme j'aime bien le dire, on se revoit pour une prochaine émission sur les ondes de Coconut Podcast. Puis avant de partir, il y a le Gala Dynasty dans quelques semaines, là, à peine début mars, et Cyril Ekwala, il est sur le conseil d'administration, il est vice-président. Donc, allez suivre Fondation Dynasty, suivez Cyril Ekwala. Sur ce, messieurs, dames, on se revoit pour une autre émission. Nyawen, merci, au revoir. Ciao!